L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous partageons notre table aujourd'hui à travers les époques, à travers le temps, avec Alma Karlin, exploratrice, autrice polyglotte, née en Slovénie en 1889. Elle est décédée en 1950 et l'œuvre de sa vie a été redécouverte dans les années 90. À ce propos, une biographie dédiée vient de paraître aux éditions Chèvrefeuille étoilée. Comme la littérature défie le temps et l'espace, je vous propose, le temps d'un déjeuner, de rencontrer, d'écouter le destin hors du commun d'Alma Karlin.
Il était une fois, il était un roi, une nuit traqué dans le dos, c'est qu'il était une fois. Il était ce roi, une vie, mais il était si beau.
Caroline Fabre-Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Vous signez aux éditions Chèvrefeuille étoilée un ouvrage sur l'une des premières européennes à faire le tour du monde par ses propres moyens, Alma Maximiliana Karlin. Je prononce bien ?
Oui, à la française, c'est ça.
Merci. À la française. Et donc, à la slovène, ou je ne sais plus, parce qu'elle elle a eu tellement de vie à l'allemande. Oui, elle était germanophone. Comment ça se prononçait de son vivant ?
Alma Karlin.
D'accord. Alma Karlin. Très bien. Donc, comment vous est venue l'idée de ce texte ? Comment vous-même avez-vous rencontré cette figure historique qu'est Alma Karlin ?
Comme pour beaucoup de mes livres, tout à fait par hasard, je me trouvais en Slovénie, mais sans vouloir chercher un sujet. J'étais en vacances. Et je me suis arrêtée dans la ville de Selge, par hasard aussi. Il y avait un très joli musée plutôt dédié aux ruines gallo-romaines. Et j'ai commencé à visiter ce musée et je suis tombée en arrêt devant quelques photos d'une petite femme en kimono ou avec un pagne, avec des javelots, manifestement années 20. Tout était écrit en slovène. J'ai vu qu'il y avait une carte du monde. Donc je me suis précipitée pour acheter le catalogue dans la boutique. Malheureusement, évidemment, il était tout en slovène. De retour en France, j'ai essayé de faire des recherches sur Alma Karlin à l'époque et rien ne sortait, plus rien n'était édité. Donc j'ai un petit peu abandonné. Mmh. Et il y a 2 ans, je me suis dit, mais que devient Alma Karlin ? Je suis retournée voir sur Internet et là, j'ai vu que c'était une star qui avait eu une exposition magnifique, double exposition à Vienne et à Selge, avec un très beau catalogue. Et cette fois-ci, le catalogue était édité en allemand. D'accord. Donc, j'ai pu travailler dessus. Et surtout, ce qui était le plus important, c'est que l'on avait réédité, réimprimé ces journaux de voyage, mm-hmm. donc des milliers de pages en allemand, aux éditions Aviva en Allemagne.
D'accord.
Et c'est comme ça que je me suis dit, allons voir. Je me suis plongée dans ces journaux. Et là, je me suis dit, non, mais cette femme est fascinante. Je comprends qu'on s'y intéresse à nouveau. Malheureusement, on ne la connaît pas en France. Je vais m'en occuper.
Et vous vous en êtes occupé superbement. Donc, nous parlons ici d'une biographie.
Oui.
J'ai pas senti à la lecture qu'il y ait de passage romancé.
Non, je me suis efforcée de vraiment rester totalement fidèle à mes sources. parce qu'il y existe des biographies d'Alma Carlin qui sont assez déformées, très romancées, avec des histoires d'espionnage, d'histoires d'amour, enfin des trucs totalement inventés. Et moi, j'ai l'habitude de respecter mes sources et de ne pas inventer. Mais ce que je fais quand même, pour que ça soit pas juste une thèse, c'est que je me mets dans la peau du personnage pour revivre et faire revivre ses émotions.
Mmh, oui.
Voilà.
Puisque c'est une femme donc qui a voyagé, qui a fait le tour du monde, mais c'est aussi une personne qui avait des soucis de santé. Elle a été orpheline de père très tôt. Elle a quand même toute une partie psychologique de vie intérieure assez sombre.
Oui, c'est un peu le paradoxe. C'est parce que je m'y suis un peu appesantie, parce que j'ai voulu comprendre justement comment ce petit bout de femme qui démarrait pas très bien dans la vie a eu cette détermination sans faille qui a fait qu'elle n'a jamais rebroussé chemin. Donc effectivement, ce côté sombre explique son endurance, parce qu'elle elle en a bavé. Et elle a voulu fuir le milieu dont elle était issue. Elle avait subi des tortures, je dirais, physiques, avec des traitements orthopédiques très violents de l'époque. Et je pense que, enfin, d'ailleurs, elle le dit elle-même à un moment dans un de ses journaux, ça l'a vraiment rendu insensible au de douleurs physiques. Mais on se demande quand même comment elle a pu, avec sa maigreur, puis les maladies qu'elle a attrapées en route, la malaria, des champignons, comment elle a pu continuer. Et ça, c'est vrai qu'elle a quand même une force psychologique, une force de caractère totalement hors du commun.
Voilà. Au début de la biographie, donc Alma est jeune adolescente. Et elle va pour sauter par la fenêtre. Donc oui, ça, c'est vrai, un moment très fort qui accroche de suite à la lecture. Et donc, vous disiez, oui, c'est vrai, vous avez lu, vous avez retrouvé des documents qui en parlent.
Oui, tout à fait. Elle en parle dans sa biographie. Elle a d'abord écrit ses journaux de voyage et ensuite ses lecteurs lui ont demandé de parler de sa vie avant les voyages. Donc pour moi c'était très précieux et elle explique alors avec pudeur qu'elle a eu envie de se suicider sans s'apesantir trop, mais moi j'ai considéré que pour ouvrir le livre, ouvrir le récit, c'était un moment absolument crucial parce qu'en fait ça nous fait comprendre aussi cette espèce de soif d'absolu et ce désir d'échapper au malheur. Donc on l'a retenue, mais c'était un désir de s'envoler. Tous ses voyages, elle était fascinée par les oiseaux, les esprits de la forêt, elle a toujours gardé aussi la nostalgie de sa relation très forte, malheureusement très brève, avec son père, lui avait permis de déjà s'endurcir en grimpant aux arbres, en courant dans la boue, et en lui disant que la terre était ronde et qu'elle pourrait faire le tour et revenir chez elle. Donc, et ça l'a marqué à jamais.
Oui, vous parlez d'un caractère absolu et entier. Ça se retrouve donc dans sa volonté de poursuivre des études le plus longtemps possible, et malgré donc la mauvaise volonté, va-t-on dire, maternelle. Donc ses études et notamment sa passion des langues étrangères.
Oui, en fait, elle a tout de suite compris que c'était un peu, comment dire, sa dot, d'avoir un bagage linguistique. Parce que pouvoir prendre des cours de langue, déjà, c'était un moyen d'échapper au carcan maternel. Et elle a négocié, adolescente, cours contre traitement orthopédique. Donc elle a dit ok, je m'y plie, mais à 18 ans je pars. Et puis elle a commencé à apprendre les langues, mais à fond elle a compris qu'elle était très douée pour les langues. Et donc à 18 ans, donc il faut quand même se remettre dans le contexte, c'était avant la Première Guerre mondiale, elle a obtenu de partir toute seule à Londres pour apprendre le maximum de langues étrangères. Donc russe, espagnol, suédois, évidemment français, anglais, chinois, japonais, et non pas comme juste une touriste, mais avec des diplômes à la clé. Mm-hmm. Donc là, tous les jours, pendant une semaine, passer ses examens dans la meilleure école de Londres, en fin de journée, après avoir travaillé toute la journée, donc à 19h, et le lendemain, elle revenait passer l'examen suivant, à la surprise générale de tous les examinateurs. Mm-hmm. Donc en fait, elle avait un but. Il fallait qu'elle ait un bagage pour pouvoir déjà comprendre les pays qu'elle traversait et pouvoir éventuellement enseigner ou avec des vrais diplômes, quelque chose de sérieux. Enseigner, traduire. Et effectivement, ça a été son matériau de base pour essayer de travailler dans les pays qu'elle traversait.
Et oui, parce que donc vous parliez, les langues pour elle sont sa dot. Donc pour faire un tour du monde, il faut le financer. Et elle n'avait pas cette aisance financière, ce prérequis aristocratique qu'on imagine, ou bourgeois, ça ne lui était pas donné.
Non, ça aurait pu être le cas, mais malheureusement pour elle, elle était sujette de l'Empire austro-hongrois, et toutes les économies qu'elle avait pu amasser grâce à son travail comme professeure de langue dans l'école qu'elle avait fondée, où elle enseignait toute la journée toutes les langues possibles et imaginables, à cause de l'inflation qui a suivi la Première Guerre mondiale, son pécule a fondu comme neige au soleil. Mmh. Donc elle s'est retrouvée sans rien, alors que s'il n'y avait pas eu cette inflation, elle avait quand même de quoi partir convenablement et voyager dans de bonnes conditions.
Elle est partie en quelle année ?
Elle est partie en 1919.
Et elle est revenue ?
Elle est revenue en 1927.
Oui, donc voilà. presque une décennie.
Au début, elle ne pensait pas partir si longtemps. Elle avait dit à sa mère, je reviendrai dans 2 ou 3 ans, parce qu'elle pensait juste aller au Japon. Et puis ça ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. Elle n'a pas pu partir au Japon pour des raisons de visa, puisqu'il aurait fallu qu'elle traverse l'Empire britannique, l'Inde. Et comme après la guerre, elle était marquée du sceau de l'infamie, puisqu'elle était autrichienne en fait, on ne lui a pas donné de visa. Donc elle a fait le tour dans l'autre sens, donc ce qui a déjà rajouté... voilà. Et ensuite, elle a... Après le Japon, avant d'aller au Japon, elle est passée donc en Amérique du Sud et aux États-Unis, elle a continué son voyage. Et puis elle s'est un peu perdue parfois, ça durait plus longtemps que prévu parce qu'elle n'avait plus de bateau pour rentrer. Enfin, mais elle a fait preuve d'une remarquable adaptabilité. C'était toujours bien préparé, mais les surprises, elle en tenait compte, elle les acceptait, elle jouait avec. Et elle bricolait, parfois c'était faste, parfois c'était néfaste. Et voilà, ce qui fait un tour du monde en 8 ans, parce qu'elle était la seule, bon, maître à bord et trésorière, c'est-à-dire que souvent les caisses étaient vides.
Oui, et elle vivait chichement, je pense que c'est le moins qu'on puisse, qu'on puisse dire. Alors, chers auditeurs, je vous propose d'écouter le morceau qui a été choisi par Caroline Fabre-Rousseau pour venir illustrer cette émission.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Paraît que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre, comme un garçon, de me laisser faire. Et comme une fille, on m'a appris toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.
Vous écoutez Les Pluches Libres, nous sommes en compagnie de Caroline Fabre-Rousseau, autrice du titre Alma Caroline, voyageuse de l'extrême. Caroline, vous m'entendez ?
Très bien.
Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi donc ce titre viril interprété par Suzanne, titre que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui est très sympa.
Oui, alors en fait, je trouve que ça dépeint bien le regard qu'on porte sur Alma Caroline et sur les femmes aventurières, exploratrices, les pionnières. C'est-à-dire qu'on considère que si elles font quelque chose, que, comme les hommes, c'est que ce ne sont pas vraiment des femmes, ce sont des hommes. Et c'est pas un compliment.
Non, effectivement, le garçon manqué, on l'a beaucoup entendu dans les années 90.
Dire qu'une femme est virile, c'est pas sympa pour elle.
Ouais.
Et en fait, Alma Caroline, c'est vrai qu'elle a détonné à son époque parce que elle était... Elle n'était pas très jolie. Bon, sa mère était sévère. Et donc, elle a considéré rapidement qu'elle n'était pas faite pour être pour le mariage.
D'accord.
Seule issue possible à l'époque pour une femme, pour avoir une sécurité financière, sociale, matérielle, etc.
D'accord.
Donc, elle a fait comme un homme. Elle a fait des études à une époque où une femme ne faisait pas d'études. Elle a pris des risques. Elle a voyagé seule à une époque où une femme n'avait pas le droit de se promener dans un parc sans
chaperon,
d'être accompagnée. Et donc, en fait, elle est extrêmement moderne. Son voyage, c'était au début du XXe siècle. Et on continue encore aujourd'hui à dire, bah, cette femme, franchement, voilà, elle est virile. Parce qu'elle n'obéit pas aux normes. Même si les normes ont été bien secouées grâce à toutes ces pionnières qui nous ont précédées, il y a encore beaucoup de travail à faire, déjà pour redécouvrir toutes les pionnières en question, et puis pour qu'on ne se pose même plus la question de savoir si c'est féminin ou pas féminin.
Oui, voilà, puisque effectivement, comme vous le disiez, dès qu'on parle de qualité, d'aventure, de leadership, d'exploration, de découverte, ce sont de suite des qualités dites viriles, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça. Et puis, bon, il y a eu quelques écrivains qui ont dit du bien des femmes... Par exemple, Flaubert disait que George Sand écrivait comme un homme.
Oui, et
donc
c'était un compliment.
C'était un compliment. Mais franchement, elle écrivait beaucoup mieux qu'un homme, puisqu'elle était une femme, donc elle savait faire les deux.
Oui. Et puis elle écrivait comme George Sand, surtout.
Mais vous
savez que ça, certaines autrices l'entendent encore. J'ai encore eu un témoignage à la radio il y a quelques mois d'une illustratrice à qui on a dit, dans ses cours de dessin, il faut que tu dessines un peu plus comme un homme, en fait. C'est des choses qui... Voilà. Et ça, c'était pas il y a 150 ans, c'était pas avant la Première Guerre, c'était il y a 15 ans.
Oui. On a notre guerre à mener.
Oui.
C'est pas la première ni la dernière.
C'est pas acquis, donc, effectivement, comme on l'entend dans l'extrait, enfin dans le morceau, en tout cas, viril de Suzanne. Merci beaucoup pour ce choix musical et ce partage. Ça nous permet d'entrer un petit peu plus dans l'intimité des auteurs, c'est précieux. Alma Caroline, était solitaire, mais elle n'était pas seule non plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de sa relation, alors pardon encore pour ma prononciation, avec Thea Schreber-Gamlin?
Oui. Alors, Thea Gamlin était une peintre allemande qui a entendu Alma Karlin raconter ses aventures à la radio. Quand Alma Karlin est rentrée de son long périple, elle a donc rédigé ses carnets de voyage à partir des notes qu'elle avait prises consciencieusement pendant toutes ces années. Et elle a été invitée comme une star dans toute l'Europe, toutes les capitales, pour raconter ses aventures, et elle a parlé sur toutes les ondes. Donc Thea Gamlin a entendu ce phénomène, et comme beaucoup de fans, lui a écrit immédiatement en disant qu'elle admirait ce qu'elle avait fait, etc. Et donc Alma a répondu. Elle avait des milliers de fans. Alma Karlin avait un courrier, c'était professionnel, hein, c'était fou. Alma Karlin lui a répondu et elles ont commencé à correspondre, et puis elles se sont rencontrées en Allemagne, en Slovénie. Alma a rendu visite à Thea chez ses parents, jusqu'à ce que Thea lui dise ça serait peut-être bien que moi je vienne en Slovénie, je pourrais être même un peu votre secrétaire, vous décharger de tout le courrier, les rendez-vous, et que vous puissiez vous consacrer entièrement à votre œuvre. Et Alma Karlin a répondu non. Non, parce que moi, je vis comme une nonne. Je suis tout le temps en train de travailler, je ne vois pas grand monde. Je n'ai pas le temps d'avoir en plus quelqu'un chez moi. Donc Théa a assisté et elle m'a dit « Ok, je vous prends un laissé. » Donc Théa est arrivée avec toute la fougue de sa jeunesse. Elle était plus jeune que Alma Karlin. Elle a peint beaucoup de portraits d'Alma, des couvertures. Elle a effectivement déchargé de toutes ses... tracasseries administratives, son agenda, enfin, elle était comme un agent. L'essai s'est transformé en cohabitation amicale jusqu'à la fin de la vie d'Alma, entrecoupée par l'épisode de la guerre où elle s'est engagée chez les partisans, donc elles ont été séparées pendant toute la guerre. Et donc Théa était au chevet d'Alma à la fin de sa vie, quand elle est morte dans la misère d'un cancer du sein non soigné.
D'accord.
Et donc Théa a apporté beaucoup de fantaisie et de chaleur dans la vie d'Alma, puisque elle a invité beaucoup de gens, elle a meublé, elle a adouci un peu, parce qu'Alma, c'est quand même quelqu'un d'assez sévère, hein, très très discipliné. À l'époque, Alma a été soit haï, soit adulé par la presse, etc. Au moment de la montée du nazisme en Slovénie, on a vu d'un très mauvais œil qu'Alma Karlin soit aussi indépendante, se permette de critiquer le régime, etc. Et là, il y a eu des dénonciations, des cabales, des lettres de calomnie. Et donc, évidemment, on a dit à l'époque que c'était deux femmes lesbiennes, ce qui était à l'époque une injure absolue. Donc, ça n'a pas facilité les affaires d'Alma. Et ensuite, alors, d'après les biographes, ces journaux, on ne sait pas s'il y a eu plus ou pas entre les deux femmes, parce qu'il y a quand même une chose de base, un postulat de base, c'est que Alma Karlin ne supportait pas les contacts physiques.
D'accord.
Ça la rendait, elle était presque allergique. Par contre, cette amitié absolue, Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'était elle, d'ailleurs, elle s'appelait âme sœur. Hein.
Mm-hmm. Un amour platonique, quelque chose
voilà,
d'équivalent.
Voilà, peut-être. Voilà, je pense. On n'en sait rien. Du moment qu'elle a pu les rendre heureuses, c'est essentiel. Après, ça leur appartient. Moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça.
Oui.
Mais c'est vrai que ça a été repris quand même aussi par les féministes slovènes, qui, bon, pour qui Alma Karlin est une héroïne absolue,
oui,
évidemment.
C'est un symbole.
Donc, on dit qu'elle est ouvertement homosexuelle, lesbienne. Pour moi, c'est un faux débat. C'est pas l'intérêt quand même de l'affaire. Mmh. Mais en revanche, c'est vrai que ça a été une belle histoire qui a adouci la vie d'Alma et ses derniers instants.
Mmh. Oui, solitaire mais pas seule. Donc, je ne sais pas si vous savez, Madame Fabre-Rousseau, mais dans cette émission, nous avons l'habitude de poser une question autour de l'inspiration, du processus de création, du contexte d'écriture pour les auteurs, les autrices invitées. Donc je vous propose de terminer ces 3-4 dernières minutes d'échange autour de ce sujet-là. Est-ce que vous voulez bien dévoiler à nos auditrices, à nos auditeurs, vos habitudes de création ?
Alors, risque de vous décevoir, j'ai vraiment pas d'habitude.
Il n'y a aucune déception.
Parce qu'en fait, j'écris dès que je peux. Et je ne peux pas toujours, parce que je travaille aussi. Donc, je n'ai pas le luxe d'avoir peur de la page blanche. Donc, en fait, mes habitudes de création, c'est de me jeter à l'eau dès que je peux, à fond, de plonger, et ensuite de laisser reposer et d'élaguer, de beaucoup élaguer. Et quant à ce qui peut soutenir ma créativité, c'est d'être portée vraiment par mes personnages. Le personnage devient obsessionnel pour moi, j'en rêve la nuit, je me demande comment il est habillé, ce qu'il mange, ce qu'il aurait pensé dans telle situation, c'est bon. Voilà ma source d'inspiration.
D'accord.
Et mes personnages, c'est comme des amis dont je prends des nouvelles. Quand j'écris, je viens prendre de leurs nouvelles, en fait. Donc, c'est un peu une conversation avec eux.
Donc ce sont des amis très proches de vous, donc vous n'êtes, comme Alma Karlin, pas seule dans l'écriture finalement ?
Ah ça c'est vrai, effectivement, c'est vrai qu'on dit beaucoup que les écrivains sont très seuls, et moi avec tous mes fantômes sympathiques, je me sens pas seule. Alors oui, après c'est vrai qu'on est seul face à son travail, mais une fois d'ailleurs que le travail est fini, on rencontre un monde fou, et même pendant le travail, quand je fais mes recherches, je rencontre beaucoup de gens que j'interroge, je vais dans les musées, enfin je. Donc, et tout ça, c'est très stimulant.
Et dans votre bibliographie, on remarque donc des romans historiques, des biographies, du théâtre aussi. Qu'est-ce qui vous porte vers ces genres précis de la littérature ?
Alors, c'est pareil, c'est vraiment par hasard. Je tombe sur mes sujets. Alors je dois avoir quand même, comme beaucoup d'écrivains, j'ai des antennes en fait, je suis un peu un réceptacle qui se passe et tout m'intéresse. Donc tout d'un coup, des liaisons, des connexions se font parce que j'ai un sujet qui était au fond de moi certainement et il y a un déclic et je fonce. Mais après, le genre, j'ai commencé par des romans qui avaient toujours un arrière-plan historique. Par hasard, je suis tombée en arrêt devant un portrait dans un musée. Ça m'a conduit à écrire d'une peintre romantique, Julie Duvidal, comtesse Hugo, par son mariage. Mais je savais pas que j'allais écrire une biographie. Après, je suis tombée sur une autre un destin exceptionnel de deux femmes, donc j'ai écrit une autre biographie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir à un roman à un moment ou à un autre. Si j'ai écrit une pièce de théâtre, c'est parce qu'un lecteur qui me suit fidèlement m'a dit qu'après la biographie sur la femme peintre, ça n'allait pas, il fallait que je réécrive la fin, qu'elle aurait dû continuer à peindre. Donc j'ai inventé une pièce de théâtre où il me kidnappait. Bon.
C'est drôle, ce retour de lecteur, vous en avez souvent ?
Oui, j'ai souvent des retours de lecteurs, mais c'était la première et la dernière fois qu'on m'a demandé de faire autrement.
Oui. Puis vous vous êtes prise au jeu, alors vous avez rencontré cette personne ?
Non, juste c'était des échanges par mail. Mais par contre, j'ai des belles histoires. Oui, j'ai rencontré des lecteurs. Hein. Ça peut déboucher sur des rencontres, effectivement. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le hasard, hein, mais il faut être ouvert au hasard.
Il faut être ouvert au hasard, je suis tout à fait d'accord, et aux rencontres, à l'image donc, d'Alma Carlin. C'est vraiment un texte qui porte, il faut avoir comme ça des figures de proue, des personnes qu'on admire. Ouais, voilà, c'est important. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup Caroline Fabre-Rousseau.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci encore à nos auditeurs, nos auditrices fidèles. C'est toujours un plaisir et à bientôt sur L'Épluche Libre.
Au revoir.
Au revoir.
L'Épluche Libre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain de...